Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. Effectivement, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, un tiers des consommateurs ruraux toujours privés de 4G, les obsèques de Gaspard Ulliel. Et puis la très forte hausse des violences sexuelles, plus 33% en 2021.
Juste après le journal, on échangera, on décryptera, on débattra comme tous les jours. Cette vague de suicides donc chez les policiers, 9 depuis le 1er janvier, c'est deux fois plus que la moyenne. Et à 12h50, gros plan sur la crise ukrainienne. La guerre est-elle vraiment possible? Emmanuel Macron s'entretient cet après-midi avec Vladimir Poutine.
Justement, c'est notre question du jour sur RTL.fr. Craignez-vous une guerre en Ukraine? Vous dites oui à 44%, non à 48%. La météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Et c'est toujours bien bien gris.
Et oui, au nord, c'est vrai que ça reste gris, avec en plus l'arrivée d'une perturbation qui va donner quelques petites pluies, pas grand-chose, entre la Normandie et les Ardennes cet après-midi. Toujours très ensoleillé en montagne et sur toute la moitié sud, mais encore de la grisaille le long de la Garonne. Tout ça sous des températures encore froide sous la grisaille, hein, de 1 à 4 degrés. De 7 à 10 plus au nord, ça se radoucit légèrement et jusqu'à 17 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et on commence donc avec ce chiffre qui nous a interpellés. Un tiers des personnes qui vivent à la campagne n'ont toujours pas accès au haut débit. 1 sur 3, c'est énorme, 10 ans après le lancement de la 4G. C'est le cas notamment à Sérouville, en Meurthe-et-Moselle, où vous vous êtes rendu, Dimitri Ramelot.
Oui, dans toutes les maisons du centre du village, signal très faible, voire inexistant, comme chez Émilie.
Très très compliqué, il faut presque aller au milieu de la route pour pouvoir avoir de la 4G. Il faut un fixe ou des appels en Wi-Fi. Et certains opérateurs ne le font même pas. Donc en fait, soit on change d'opérateur, soit on a un fixe.
Vous attendez la 5G du coup là ?
J'aimerais bien que ça capte déjà chez moi en 4G ou même en 3G, ça serait super déjà.
Et en cause notamment les murs de ces anciennes fermes dont l'épaisseur atteint parfois 90 cm. Impossible donc pour le pylône le plus proche à 5 km de satisfaire les abonnés. Patrice Picard, le maire de Sérouville, a donc pris contact avec un opérateur.
On devait mettre un pylône sur la route d'Aumès, mais j'ai eu des retours négatifs des habitants parce qu'ils me disent que dès qu'il y a un pylône, la maison coûte plus que la moitié. Donc maintenant, je suis en train de renégocier et on le mettrait du côté sur Berck. Il sera à 500 mètres du village. Le signal sera bien meilleur.
Et pas sûr que l'opérateur installe un relais 5G, mais les habitants et le maire espèrent pouvoir pleinement profiter de leur portable, même en 4G d'ici la fin de l'année.
En Meurthe-et-Moselle, le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL, l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui révèle ces chiffres en appel désormais au gouvernement. Elle demande d'imposer enfin aux opérateurs une qualité de service minimale.
Le Covid à présent n'a pas besoin de quatrième dose.
En tout cas, pas pour l'instant. Le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale estime à ce stade qu'elle ne se justifie pas, Odile Pouget, cette quatrième dose.
Nous sommes contents.
En effet, c'est un nom provisoire, car l'instance présidée par Alain Fischer, le monsieur vaccination du gouvernement, se dit prête à revoir sa position si la situation évolue. Pour l'instant donc, selon les dernières données scientifiques, la protection conférée par la troisième dose contre les formes sévères tient bon, si l'on peut dire. Plusieurs études à l'étranger le prouvent, celle de l'agence sanitaire britannique, par exemple, qui montre que les plus de 65 ans sont protégés contre le risque d'hospitalisation à hauteur de 94% jusqu'à 9 semaines après l'injection et à hauteur de 89% plus 10 semaines après. Selon par ailleurs les derniers chiffres du ministère de la Santé, donc en France, il y a très peu de malades hospitalisés ou en réanimation parmi la population qui a reçu son rappel en septembre et en octobre, essentiellement des personnes âgées. Pour justifier sa décision, le COSV avance un autre argument. Une nouvelle campagne de rappel pourrait, assure-t-il, avoir un effet contre-productif. Elle pourrait être interprété comme un signal d'inefficacité de la vaccination par la population et provoquer un risque de désengagement. On en reste donc pour l'instant à une dose de rappel. Seules les personnes immunodéprimées peuvent bénéficier d'une quatrième dose.
Merci beaucoup Odile Pouget. Quatrième dose déjà injectée en Israël depuis le début du mois de janvier aux plus de 60 ans. Et le gouvernement a là-bas décidé hier soir de l'étendre à toutes les personnes à risque de plus de 18 ans. J'ajoute qu'en Grande-Bretagne, le masque n'est plus obligatoire depuis ce matin en intérieur. Fini aussi le pass qui était exigé pour les grands rassemblements. Assouplissement également au Danemark qui annonce la fin des restrictions à compter de mardi prochain, le 1er février. 1er février, c'est aussi la date à laquelle est convoqué le directeur général du groupe Orpea après les accusations portées contre les maisons de retraite. Rendez-vous fixé à 9h15, hein, donc mardi prochain, indique Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée en charge des personnes âgées.
Le cinéma français réunit ce matin en l'église Saint-Eustache à Paris pour un dernier hommage à Gaspard Ulliel.
Gaspard Ulliel décédé la semaine dernière après un accident de ski, une cérémonie sobre à l'image finalement de ce qu'il était, Vincent Serrano.
Oui, timides applaudissements à l'entrée du cercueil. Silence assourdissant au passage de Catherine Deneuve, Pierre Niney, Léa Seydoux. Et depuis plus d'une heure, dans cette foule, l'on voit rarement quelques bras se lever pour essuyer quelques larmes. Celle de Vincent, dont le fils était scolarisé dans la même école Corso, l'enfant de Gaspard Ulliel.
C'était un immense acteur, mais c'était un papa comme un autre. Des discussions autour de la scolarité des enfants, comment ça se passe pour les vacances, etc. Et même les questions sur son travail n'étaient pas forcément balayées. Enfin, je lui demandais comment ça se passait. S'il allait voyager dans quelques semaines. Et mon épouse était à l'école avec lui.
C'est trop soudain en fait. Non, je vois son visage avec son sourire. Il était toujours très souriant.
Et dans la foule des jeunes acteurs comme Aude.
Ça me fait bizarre quoi. Il est parti trop tôt. Je trouve ça incompréhensible pour moi. Je suis un peu choquée. Je comprends pas comment c'est possible.
Il y a une espèce d'identification, c'est ça?
Mais complètement. C'est quelqu'un qui avait réussi, qui avait une élégance dans le jeu, dans très beau comédien. Je trouve que c'est absolument injuste d'avoir perdu cet homme-là sur l'image.
Une image qu'elle fixe du regard alors que vous l'entendez, la foule applaudit. Cette image, une photo en noir et blanc de l'acteur, clope au bec et emmitouflé dans une écharpe qui laisse apparaître un regard malicieux.
Avec ce cercueil qui sort à l'instant de l'église Saint-Eustache à Paris, à l'issue donc de cette cérémonie qui s'achève à l'instant. Merci à vous Vincent Serrano. Cet accident qui a coûté la vie à Gaspard Ulliel a eu lieu la semaine dernière, on le rappelle, à La Rosière en Savoie. Le docteur Bouvet est le médecin de la station et c'est lui qui, le premier, a tenté de sauver l'acteur.
Sur le plan de la rapidité des secours, les pisteurs... C'est de l'ordre de la minute ou des deux minutes, ils ont été sur zone. Et ensuite, dès que l'état s'est dégradé, moi j'ai été appelé, je suis monté rapidement au central des pistes et j'ai été déposé en motoneige. J'ai essayé de faire le mieux pour la victime en attendant le SAMU. On a médicalisé à deux le patient avant son évacuation avec l'hélico des CRS et le médecin du SAMU.
Gaspard Ulliel ne portait pas de casque, on ne sait pas si ça aurait pu le sauver s'il en avait porté un.
Le port du casque n'aurait peut-être pas évité les suies dramatiques, mais l'inverse est aussi vrai.
Le docteur Bouvet qui a donc apporté ses premiers soins à Gaspard Ulliel la semaine dernière au micro RTL de Serge Puyot, l'acteur, on le rappelle. Et c'est aussi ce qui explique l'émotion, avait 37 ans seulement. L'actualité, c'est aussi cette journée de mobilisation et de manifestation un peu partout en France à l'appel de plusieurs syndicats, CGT, FO, FSU, Solidaire, pour réclamer des hausses de salaire. Hugo Hamelin, vous avez suivi le cortège à Marseille. Un peu de monde, 5000 personnes environ et surtout des enseignants.
Oui, beaucoup d'enseignants, certains portent des colliers de fleurs, petite référence à Ibiza, d'autres distribuent des cartes un peu particulières, ce ne sont pas vraiment des cartes bancaires mais presque.
Je vais pas donner la carte bancaire à RTL.
Qu'est-ce que je peux acheter avec la carte bancaire?
Ben normalement vous pouvez rien acheter, vu les salaires qu'on nous donne, c'est mort, une fois qu'on a payé l'essence, il ne reste plus rien.
Les salaires gelés, principales griefs des manifestants comme Nicolas, professeur de SVT dans le Vaucluse, qui m'explique que son pouvoir d'achat a chuté de 25% en 10 ans.
Vu l'augmentation des cotisations et puis le point d'indice qui est gelé depuis 15 ans, bah, mon salaire baisse, en fait, tout simplement. Bah, les cotisations retraite, les cotisations sécu, notre mutuelle qui augmente, tout qui fait que notre salaire net, évidemment, baisse.
On est venu aussi parce que voilà, on en a marre d'avoir un ministre qui se moque de nous. On est dans le mensonge permanent, il n'y a aucun masque qui sont distribués, il n'y a pas de tests, il n'y a pas de... Voilà.
Il n'y a pas de masque distribué dans votre école?
Ah non. Pour nous, on n'a pas les FFP2, on les attend toujours, on les paye sur nos deux, avec nos sous.
Et ça fait ça au moins sur le salaire des professeurs.
Hugo Hamelin, en direct de Marseille pour RTL, ministère de l'Éducation nationale, hein, annonce ce midi moins de 10% de grévistes dans ses rangs, presque 9 dans le premier degré et 8,1 dans le second.
Autres chiffres qui seront sans doute très largement commentés en cette période de campagne électorale, ce sont ceux de la délinquance.
Le bilan 2021 a été publié ce matin. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Gérald Darmanin se félicite d'une baisse depuis le début du quinquennat. Est-ce vraiment le cas?
Alors c'est le cas pour une partie seulement de la petite délinquance, pour les vols violents par exemple, dont le nombre n'a cessé de diminuer pendant le quinquennat, encore une baisse de 6% l'an dernier. Les cambriolages, eux, restent stables. En 2020, ils avaient fortement baissé. Les différents confinements l'expliquent. Les vols de véhicules sont stables sur un an, eux aussi. Ils avaient baissé toutes les années précédentes. Voilà ce dont se félicite le ministre de l'Intérieur.
Mais il y a toutefois une majorité d'indicateurs en hausse, un record même pour les violences sexuelles.
Oui, c'est l'évolution la plus impressionnante. Plus 33% de violences sexuelles l'an dernier par rapport à 2020. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a davantage de faits, mais que ces viols, ces agressions sont davantage signalés aux services de police et de justice. La libération de la parole des victimes est ici très visible. Hausse également pour les coups et blessures volontaires, plus 12%, avec une majorité de violences intrafamiliales. Enfin, les escroqueries ont elles aussi bondi, plus 15%, une bonne partie sur Internet, favorisée par la multiplication des services en ligne et le télétravail.
Alice Moreno du service police-justice. Sachez par ailleurs que 3 personnes ont été interpellées après l'agression du député LREM Romain Gros. C'était samedi dernier à Perpignan. Il a reçu un coup de poing au menton en marge d'une manifestation anti-passe vaccinale.
Une petite révolution dans nos assiettes à partir du 1er mars.
Oui, l'origine de toutes les viandes devra être indiquée au resto comme à la cantine. Jusqu'ici, c'était le cas seulement pour le bœuf. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
On risque d'avoir des surprises.
Alors, déjà, en gros, la moitié de la viande mangée en France est importée. On ne s'en rend pas forcément compte, car chez le boucher ou en grande surface, là, on trouve plutôt de la viande française. Les distributeurs savent que les consommateurs sont attachés de plus en plus à manger français. Le gros problème, c'est la restauration collective. Alors, vous avez beaucoup de bœuf ou de porc qui viennent d'Allemagne, d'Espagne. Après tout, ce sont des pays qui ont les mêmes normes de sécurité que nous. Mais pour la volaille, c'est très différent. 60% de la volaille est importée d'Ukraine, du Brésil surtout. Et là-bas, ils n'ont pas les mêmes règles. Les poulets avalent toute leur vie des antibiotiques pour éviter qu'ils tombent malades. Il y a des pays où les poulets sont traités au chlore, ça désinfecte. Bref, autant manger ce qu'on peut contrôler, autant manger français. Plus de transparence dans les restaurants va peut-être nous aider.
Bon appétit, j'ai envie de dire, en vous écoutant. Merci beaucoup Virginie. Le cocorico du jour est sportif avec cette très belle performance hier soir des handballeurs français qui ont arraché leur qualification pour les demi-finales de l'Euro face au Danemark. Remontada spectaculaire et à l'arrivée, les Bleus s'imposent sur le fil, 30-29. Le prochain adversaire, ce sera la Suède. Vendredi à 20h30, l'Espagne affrontera le Danemark à 18h dans l'autre demi-finale.
Dans une seconde, notre premier sujet, vague de suicides chez les policiers, 9 depuis le 1er janvier. C'est 2 fois plus que la moyenne. Nous serons dans une seconde avec Monsieur Joron.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Un enterrement de policier qui s'est tué avec son arme de service, qui était mon cousin, donc c'est difficile, franchement c'est difficile. On se demande quand ça va s'arrêter, malheureusement. Quand est-ce qu'on va faire quelque chose vraiment ?
Michel est policier et il y a quelques semaines, son cousin, lui aussi policier, s'est suicidé avec son arme de service. Alors le malaise n'est pas nouveau, on en parle régulièrement, mais depuis le début de l'année, les chiffres s'envolent. Déjà 9 suicides dans les rangs de la police depuis le 1er janvier, 8 hommes, 1 femme, c'est 2 fois plus que la moyenne. Que faire ? Comment freiner cette hécatombe ? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Grégory Joron.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police et Faux. Quel est le problème d'après vous ?
Il n'y en a pas qu'un, malheureusement. Il y en a plusieurs. On a une réelle difficulté de prise en compte de la parole dans la police nationale. Globalement, on n'a pas de culture de prévention, on n'a pas de culture du débriefing et on manque surtout de soutien, que ce soit médical, psychologique. Donc voilà, on a deux difficultés. On a un plan de mobilisation qui est construit et qui tient sur deux jambes. Et ces deux jambes-là, aujourd'hui, sont extrêmement faibles, puisqu'il y en a une, c'est les médecins et les psychologues. 70 médecins de prévention pour 150 000 agents. Ça vous donne un peu le...
70 pour 150 000.
Oui, et une centaine de psychologues pour 150 000 agents actifs. Hein, et je ne compte pas, évidemment, nos collègues personnels administratifs, techniques et scientifiques. Donc on est sous-dimensionné pour faire face à ça. Et de l'autre côté, des outils légaux qui, malheureusement, sont inopérants. Donc voilà, on a deux jambes qui sont très faibles.
Illustration de cette sous-dimensionnisation, je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais en tout cas, c'est ce numéro vert qui a été créé en 2019, qui peut être utilisé par tous ceux qui le souhaitent, hein, parmi les forces de l'ordre. Et écoutez Michel, justement, qu'on entendait à l'instant, il l'a déjà composé et vous allez voir ce qu'il raconte.
Pour l'avoir testé, le problème, c'est qu'on appelle, on est sur une boîte vocale, on veut parler à un psychologue, on laisse un message. Et on attend qu'il nous rappelle. J'ai dû rappeler 3 fois pour avoir quelqu'un.
J'imagine que ça ne vous surprend pas, ça, Grégory Gendron ?
Non, c'est justement ce qu'on aimerait faire changer, clairement, c'est-à-dire ce sous-dimensionnement par rapport à tous les outils qu'on nous dit exister et qui, malheureusement...
Mais ça ne peut pas fonctionner, un numéro vert comme ça.
Non, et puis clairement, le suicide, enfin, en tout cas, la prévention des risques, parce qu'avant, malheureusement, de parler de suicide, moi, j'aimerais qu'on parle de prévention, parce que c'est quand même le meilleur outil pour se préserver de tout ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un système qui est, de toute façon, à la limite en réaction, mais toujours trop tardif, et en fait qui n'est jamais préventif, et c'est la clé à mon avis.
C'est toujours délicat de parler d'un homme ou d'une femme qui se suicide, et c'est encore plus délicat sans doute d'établir un lien de causalité entre le fait qu'ils étaient policiers et que c'est parce qu'ils étaient policiers qu'ils se sont suicidés. Donc sur ces 9 personnes, est-ce que vous avez... j'allais dire, pu enquêter sur le profil et les raisons de leur suicide.
Alors, il y a aujourd'hui des enquêtes qui sont mises en place pour chaque suicide. Ça, c'est une réalité. Donc, ça permet quand même d'essayer, entre guillemets, d'établir un arbre des causes. C'est un jargon un peu barbare, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pour essayer de trouver justement l'élément déclencheur. Il y a de multiples raisons du mal-être. Mais au bout de la crise suicidaire, c'est un entonnoir en fait, et plus la personne avance, moins il y a de solutions. Et au bout de la crise suicidaire, il y a un élément déclencheur. L'élément déclencheur, je n'ai pas de chiffres en tête, mais globalement, d'après ce qu'on regarde, c'est souvent malheureusement une rupture familiale, amoureuse, etc., qui déclenche le suicide. Mais il y a quand même une forme de mal-être. Donc nous, policiers...
Certains vont vous dire que ça n'a rien à voir du coup avec le statut de policier.
Oui, mais c'est un déséquilibre. C'est-à-dire quand on a une fracture au niveau familial, si de l'autre côté, on peut au moins avoir une prise au niveau professionnel en sachant qu'on y est bien, c'est déjà ça. Donc on ne peut pas avoir d'action.
C'est pas une cause, un suicide, de toute façon.
Le familial, parfois, est sous l'influence du professionnel.
Exactement. Et c'est tout l'enjeu, nous, des cycles horaires. C'est tout l'enjeu de notre condition de travail. C'est tout l'enjeu de la surcharge mentale des enquêteurs. C'est tout l'enjeu justement de ce qu'on dénonce régulièrement, et malheureusement la seule action qu'on peut avoir pour nos collègues, c'est en interne, c'est au sein de la police nationale, réveiller cette culture, encore une fois, du débriefing, du management. Il faut savoir que depuis 2015 que tous les différents bilans, que ce soit des psychologues opérationnels ou même des comités d'hygiène et sécurité, font état de 2 leviers qui peuvent créer du mal-être dans la police nationale, c'est les cycles horaires et le management. Aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver un référentiel de management dans la police nationale, c'est-à-dire un bouquin qui va nous expliquer les bonnes pratiques, et je vise aucun corps, les bonnes pratiques pour tous les managers, qu'ils soient brigadiers chefs, secrétaires administratifs, commissaires ou commandants.
Il ne faut pas se plaindre dans la police ? Enfin, c'est pas dans la culture ?
C'est un métier qui est forcément qui fait face à toute la violence, à la brutalité, et qui fait face à ce que l'homme peut faire de pire. Globalement, ça durcit aussi souvent les relations entre les agents, et on a quand même de toute façon un système hiérarchique. C'est une réalité. Mais oui, se plaindre, c'est compliqué. Avouer qu'on est en état de faiblesse, c'est compliqué. Il y a un sujet autour du port de l'arme, parce que dès lors qu'on se plaint, le premier réflexe, évidemment, de retirer l'arme de l'agent, et après l'agent, là, pour le coup, se sent complètement démuni et finalement mis au banc. Donc il y a un vrai sujet sur la culture, encore une fois, la libération de la parole.
J'écoutais ce matin la rubrique de Cyprien Sini et l'instrumentalisation qui a été faite de Bakner. Et à un moment, vous avez un flic qui est joué par Lelouch qui dit « nous insulte toute la journée, on ne répond pas, on est maltraité, on est méprisé ». Est-ce que vous avez trouvé que ce film était une caricature ou au contraire une réalité de ce que vous observiez sur le terrain ?
Non, il y a forcément des choses assez réelles, parce qu'il y a une perte de sens du métier de policier, ça c'est une réalité. Il y a une brutalité à certains endroits au niveau hiérarchique, mais qui s'explique, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'outils de bonnes pratiques. Donc en fait, chacun y va de la sienne. Donc vous avez des gens qui globalement sont bienveillants, et tant mieux, et heureusement, et donc ils font avec ce qu'ils ont, et ça se passe bien. Mais dès lors qu'il y a des personnes déviantes, il y a une brutalité qui se met en marche, et en plus, la plus grosse difficulté peut-être qu'on a dans la police, c'est justement faire reconnaître ces victimes de souffrance au travail. Et là, le chemin est très long, parce que les outils qu'on a à notre disposition nous obligent à passer des caps obligatoires, et c'est extrêmement long. Donc, le Bakner n'est pas complètement hors sol par rapport à ce que vivent mes collègues dans les services.
En tout cas, c'est un film qui aura beaucoup marqué. Évidemment, parce que on aura pu se rendre compte du quotidien qui est parfois la vie d'un policier confronté, en l'occurrence, à des cités marseillaises. Alors, c'est dans un cadre assez particulier. Tout le travail n'est pas toujours aussi violent.
Non, mais globalement, regardez, ne serait-ce que samedi à Brest, que ce soit à Marseille ou à Brest aujourd'hui, on peut être confronté, malheureusement, à des événements violents, des insultes.
C'est ça qui est frappant, d'ailleurs. Dans des villes comme Brest, Rennes, Nantes, il y a aujourd'hui beaucoup de violences qui se mettent en place dans des des villes qui étaient traditionnellement calmes ces dernières années.
C'est bien pour ça, on peut être exposé partout en effet.
Juste un mot pour revenir au suicide, le fait que les agents puissent avoir leur arme de service chez eux, ça a changé quelque chose ça ?
En toute honnêteté, pas grand-chose. Si vous regardez, malheureusement, la triste courbe des suicides, avant même, donc avant 2015, avant qu'on ait la possibilité de ramener notre arme hors service, on avait aussi des années qui étaient terribles. Ça change pas grand-chose, puisque finalement, les collègues venaient au service pour passer à l'acte. Voilà, donc c'est juste la différence. Je pense qu'il y a un sujet au niveau de la prévention tout autour de l'arme, c'est-à-dire comment on appréhende un agent qui est en mal-être avéré et comment on l'accompagne justement par rapport à cette relation à l'arme et la prévention qu'on doit y mettre. Ça c'est un vrai sujet, mais remettre en cause le port de l'arme hors service, à mon avis, c'est pas la solution.
Merci monsieur Joron, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Dans une seconde, notre deuxième sujet, gros plan sur la crise ukrainienne, la guerre est-elle possible? On en parle dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Nous préparons en parallèle la réaction commune et la riposte. S'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé.
C'est le dossier diplomatique du moment, la crise en Ukraine, série de discussions depuis plusieurs jours, hier encore à l'Elysée. Demain, Emmanuel Macron s'entretiendra avec Vladimir Poutine. Alors la guerre est-elle évitable et la France peut-elle vraiment jouer un rôle dans cette crise? C'est le deuxième débat de RTL Midi. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, chef du service étranger ici à RTL. Peut-être un petit retour en arrière d'abord. Quelle est l'origine, le point de départ de cette crise?
Alors, on dit toujours qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Poutine. Mais une chose est sûre, c'est que le chef du Kremlin veut restaurer le statut de puissance mondiale de la Russie. Il ne supporte pas qu'on ne parle que du duel Chine-USA. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a la force Wagner au Mali, pour étendre l'influence russe en Afrique. Et puis, Moscou considère l'Ukraine comme le berceau historique de la Russie. Russes et Ukrainiens seraient un seul et même peuple.
Ce qui est une réalité depuis des centaines d'années.
Ah ben les Ukrainiens disent peut-être pas ça. Vous voyez, Russes et Ukrainiens, un seul et même peuple, c'est une véritable obsession pour Poutine, qui se veut le rassembleur des terres russes. Mais l'Ukraine était un pays de l'URSS, pas forcément de la Russie. L'Ukraine, c'est pas pour Poutine, si vous voulez, c'est un pays dirigé par un gang fasciste. Donc, annexion de la Crimée en 2014, première action. Déstabilisation de la région du Donbass, où des séparatistes pro-russes maintiennent la pression. Le Donbass, où il y a des morts tous les jours, il y a des morts au Donbass. Ça fait longtemps que Poutine a redémarré sa reconquête. La fin de la guerre froide, c'est un lointain souvenir, depuis très longtemps.
Mais alors, pourquoi on assiste maintenant à un regain de tension?
Peut-être parce que Poutine a senti qu'il y avait une brèche, que l'administration américaine de Joe Biden avait connu un moment de faiblesse avec ce retrait d'Afghanistan. Et puis Poutine, ça fait des années qu'il demande à ce que l'OTAN arrête de s'étendre à ses frontières. Il ne veut pas que les forces armées de l'OTAN ou encore des missiles soient installés tout près. Alors il y a quelques mois, il a donc installé, lui, 100 000 soldats russes à la frontière avec le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Et puis récemment, il est au nord de l'Ukraine, chez ses amis au pouvoir en Biélorussie. Il ordonne des manœuvres militaires. Les diplomates américains se sont là, à ce moment-là, alarmés en disant que c'était un coup de poignard, et ils prennent désormais la chose très au sérieux.
Ce qu'on saisit mal, c'est l'intérêt de Poutine. C'est ça que le grand public peut-être ne comprend pas. Et la question, c'est que veulent les Russes ?
Les Russes, ils veulent la sécurité à leurs frontières, si vous voulez. Ils ont mis sur la table deux textes qui doivent être signés, selon eux, par les Américains et par l'OTAN, avec des garanties de sécurité qui sont inacceptables pour les Occidentaux. C'est comme un ultimatum. D'abord, l'OTAN ne doit pas grossir, on l'a dit, pas d'adhérents supplémentaires. 30, ça suffit. Surtout pas l'Ukraine, surtout pas la Géorgie, surtout pas la Finlande, la voisine de la Russie, qui est un pays neutre. Pas de manœuvre militaire de l'OTAN non plus près de ses frontières. Et puis, Poutine veut signer un deuxième contrat, cette fois-ci avec les Américains, pour que ces derniers abandonnent toute coopération militaire avec des pays non membres de l'OTAN. C'est pour ça que pour désamorcer tout ça, plusieurs niveaux de négociations en ce moment. Vous entendez les négociations Russie-USA, c'est ce que privilégie Poutine.
C'était la semaine dernière.
Voilà, et encore lundi, puisque les Américains ont répondu lundi à Moscou, des négociations Russie-OTAN, et puis le fameux format Normandie, Russie, Ukraine, Allemagne, France, parce que là, on parle que du Donbass, mais on le répète, seul le dialogue avec les Américains intéresse les Russes.
Alors demain, Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine. Très honnêtement, ça peut changer quelque chose ?
Non. Ça peut pas, mais ça peut ce qu'appelle le président la désescalade, ça peut entretenir la désescalade. De toute façon, Poutine ne veut pas entendre parler de l'Europe, mais l'Europe, elle, a compris qu'il fallait être unie, que tout ce qui passait sur son territoire, elle devait s'en préoccuper et parler d'une même voix. C'est vrai que l'Europe et les USA se montrent assez unis sur ce dossier. Hein. Pour l'instant, pas de grosses divisions, même si on n'est pas toujours d'accord sur le mode opératoire, mais Poutine n'a pas réussi encore à fendiller notre armure. Emmanuel Macron, on le rappelle, il préside pour 6 mois le Conseil de l'Union européenne. Il peut donc être le porte-parole des 26 pendant ces négociations. On verra demain.
Alors, tout le monde parle toujours de l'OTAN. Je rappelle simplement, parce que je sais que les auditeurs sont parfois un peu perdus, hein. L'OTAN, c'est une alliance entre l'Europe et les États-Unis qui visait, durant la guerre froide, à dissuader l'Union soviétique de toute tentative d'expansion territoriale. C'était ça,
l'OTAN. 30 pays en ce moment, et l'OTAN est aux frontières de la Russie.
Exactement. Donc, c'est toujours des sujets un peu complexes et que vous avez su expliquer, Bénédicte Tassard. Merci beaucoup. Il est 12h59, on va marquer une pause et ça fera peut-être réagir dans quelques instants les auditeurs, parce que il y a quelque chose qui peut les concerner, pour le coup, c'est une guerre possible. À tout de suite.
RTL Midi.